Top Game, les jeux sous toutes leurs formes. Une émission réalisée par les élèves du CSND en direct du lycée Notre-Dame.
Calade, ma radio.
Donc, bonjour et bienvenue dans notre émission Top Game réalisée par les élèves de seconde du centre scolaire Notre-Dame. Nous allons vous présenter les jeux sous toutes leurs formes. Le rétro gaming, les jeux vidéo et les jeux de société. Et tout de suite, Mathis et moi-même allons recevoir Valentin Guignochon, président de l'association Prestart. Donc bonjour.
Bonjour.
Nous allons tout de suite commencer avec la première question. C'est quoi Prestart ?
Prestart, c'est une association qui collectionne, qui partage et qui essaye de préserver un patrimoine vidéoludique qu'on appelle chez nous rétro gaming, qui est en fait l'histoire du jeu vidéo au travers soit des consoles, soit des ordinateurs, soit sous d'autres formes également, jeux électroniques, etc.
D'accord. Donc, comment l'organisation a-t-elle été fondée ?
Alors, au départ, c'est une collection personnelle, la mienne, que j'ai décidé de ne pas laisser moisir, ni prendre la poussière dans les cartons, parce que ça sert à rien de garder jalousement pour soi les machines, et que j'avais envie de partager. Et donc, en 2018, j'ai créé un premier festival dans le Beaujolais, à Lima plus exactement, qui a été donc la toute première édition de quelque chose autour du jeu vidéo dans la région. Et puis, l'année suivante, on a décidé de créer l'association avec quelques amis fondateurs. Et cette association, depuis, elle a grandi. Ça fait bientôt 5 ans qu'elle existe.
D'accord. Donc, l'objectif initial, c'était de montrer votre collection et de ne pas la laisser là où elle était, quoi.
Oui, l'objectif initial, c'est de faire fonctionner, de partager cette histoire du jeu vidéo, parce que c'est à la fois une histoire ludique, c'est aussi une histoire technologique et c'est une histoire commercial, puisque aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo a plus de 50 ans. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Et surtout, elle pèse plus lourd que l'industrie du cinéma et que l'industrie de la musique.
D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé les membres de l'association, de votre organisation, à se consacrer aux jeux vidéo rétro ?
D'abord, ce sont des passionnés, souvent des collectionneurs eux-mêmes. Et puis, il y a aussi l'attrait de la nostalgie, retrouver quelque chose qu'on a connu quand on était parfois plus jeune, mais pas nécessairement. On dit souvent que les jeux vidéo, c'est pour les enfants, mais en fait, c'est vrai que nous qui avons grandi dans les années 80 et 90, pour certains de nos adhérents, c'est notre enfance, parce que le jeu vidéo, à l'époque, était vraiment très orienté vers l'enfance, alors que les adultes sont aussi des joueurs.
Donc, vous parlez de la nostalgie des anciens jeux. Donc, quel type de jeux sont les plus populaires et quels sont vos jeux rétro préférés ? Pourquoi ?
C'est une question qui est compliquée, ça. Quels sont les jeux les plus populaires ? Les jeux les plus populaires, c'est évidemment ceux qu'on a connus. C'est ceux qui sont dont les licences existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une installation de jeux sur nos animations sans un Super Mario, par exemple. Ça, c'est le tout premier, en tout cas. Et l'avantage de notre association, c'est que nous, on va vous le présenter sous différentes formes, sur différentes machines, parce qu'il a existé sur des consoles que vous n'avez pas forcément connues. On en a connu une en France, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu au Japon, il y en a eu aux États-Unis. Elles n'ont pas la même forme, et pourtant, c'est le même jeu, c'est la même technologie. Quant à vous dire quel est mon jeu préféré, c'est dur. C'est trop dur à dire. Moi, j'aime la technologie, j'aime les machines un peu bizarroïdes, un peu exotiques. Je dirais que je suis attiré par, non pas forcément par les jeux, mais plutôt par les machines elles-mêmes. Et il y a des choses qui sont relativement remarquables. Et dans mon association, je suis particulièrement connu pour adorer tout ce qui est un peu pourri, quoi. Ce qui n'a pas marché commercialement, par exemple. Et donc, il y en a une qui me plaît énormément, que vous peut-être ne connaissez pas, qui s'appelle le Virtual Boy, et qui est une console qui a été fabriquée par Nintendo en 1995. Voilà, donc elle a été vendue à peu près pendant un peu moins d'un an. Ça a été un flop commercial, et c'était en fait quelque chose qui pouvait ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de réalité virtuelle. Ça ressemblait à un casque de réalité virtuelle, mais c'était de la 3D. C'était pas de la VR, c'était pas de la vraie VR. Mmh. En tout cas, il y avait une approche qui était marrante à cette époque, mais qui était trop ambitieuse et trop en avance sur son temps.
D'accord. Donc maintenant, on va parler des activités, des événements organisés au sein de votre association. Donc, quelles sont les activités, les événements organisés par votre organisation ?
Alors, nous, on n'organise pas nécessairement d'événements. L'année dernière, on a souhaité faire une convention entre différentes associations de Villefranche autour du jeu vidéo. On est notamment partenaire d'une association qui s'appelle HEC et qui regroupe deux entités e-sport et puis on est aussi copains avec une autre association qui fait ce qu'on appelle du pump it up, c'est les jeux de danse sur tapis, je ne sais pas si ça vous parle, DDR et pump it up. Voilà. Et donc on a l'année dernière organisé le Beaujolais Gaming Fest qui est une petite convention locale. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et en fait, on rejoint des événements existants la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on est donc, on vient nous chercher, on nous dit bah, est-ce que vous pouvez venir sur notre événement ? Et notamment, bah, par exemple, aujourd'hui, on va cet après-midi à Suligna dans l'Ain, sur une journée jeu, qui est une journée qui couvre tout type de jeux et notamment les jeux vidéo, et qui est organisée par le Conseil municipal des jeunes de Suligna. Et on va faire, vous avez probablement pu nous voir dernièrement à la Master of Fest à Parc Expo, qui s'est déroulée le mois dernier. Et donc là, on avait un très très gros espace. On est à peu près partout, dès qu'il y a quelque chose, dès que c'est possible de poser du jeu vidéo, on nous demande parce que tout le monde aime ça.
D'accord. D'accord, donc on va enchaîner sur un petit quiz rapide. Donc en fait, on vous a préparé un petit questionnaire rapide. Donc vous devez choisir entre deux propositions et répondre le plus rapidement possible ce qui vous passe par la tête en premier.
Oula, d'accord.
Donc on va commencer maintenant. Jeu moderne ou rétro ?
Rétro.
Nintendo ou PlayStation ?
Ah, moi je suis Nintendo fan. Ouais.
Xbox ou PlayStation ?
Bah du coup là, il faut choisir encore. Je dirais PlayStation parce que ils ont tout cassé en 94 et c'était génial.
PC ou console ?
Console.
La première console que vous avez eue en votre possession ?
Que j'ai eu moi ou que j'ai... Ouais, c'était un Pong. C'était un Pong, donc de toute façon, c'est vieux.
Vous êtes plutôt jeu compétitif ou coopératif ?
Ah, coopératif, j'aime beaucoup. Et il y en a de plus en plus, et je vous invite à aller les découvrir, parce que c'est souvent des studios indépendants qui les font.
Donc, en lien, multijoueur ou solo ?
Ouais, multijoueur.
Le premier jeu auquel vous avez joué ?
Ah bah du coup c'était un Pong, pareil. Ouais.
Et le meilleur jeu auquel vous ayez joué ?
Ah non, ça c'est trop dur. Voilà. Le meilleur jeu auquel j'ai joué, c'est trop dur. Il n'y a pas de meilleur... Les meilleurs jeux, ce sont ceux qui nous font encore triper aujourd'hui et sur lesquels on joue tout le temps et on rejoue. Alors j'avoue que je vais avoir une préférence pour Super Mario parce qu'en fait il est sorti le 13 septembre 1985 et c'était le jour de mes 10 ans. Donc voilà, mettons ça.
Intéressant.
Twitch ou YouTube ?
Ni l'un ni l'autre. Voilà. Ni l'un ni l'autre, mais on est dans le réel.
Ouais, ok, d'accord. Bon, maintenant on va reprendre avec des questions un petit peu plus classiques. Donc on va parler de la préservation et restauration des jeux. Donc comment l'organisation contribue-t-elle à la préservation et à la restauration des jeux rétro ?
Alors c'est une question qui est extrêmement vaste puisque la préservation c'est comme une bibliothèque, c'est comme un musée. Mmh. Il y a un fonds, il faut l'entretenir, il faut conserver les machines qui permettent de lire les jeux par exemple, et les médias en question s'abîment dans le temps, hein, notamment les CD par exemple sont hyper fragiles, beaucoup plus que les cartouches. Et donc nous, ben l'idée c'est la préservation, c'est aussi, par exemple, acheter du matériel qui n'est pas forcément utilisable, mais le conserver en l'état et ne pouvoir le présenter. Alors, je suis un peu désolé, parce que j'y ai pensé au dernier moment, j'aurais bien aimé vous amener la toute première console au monde, mais elle est malheureusement chargée dans le camion, donc pour cet après-midi. Et en fait, c'est ça, on récupère ces machines, on essaye d'avoir le plus possible d'éléments que les gens ont connus, mais c'est très très dur de tout couvrir. Aujourd'hui, nous, on est une toute petite association. Mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à transmettre l'information, à transmettre l'histoire. Et donc, on n'hésite pas à sortir des machines qui ont de la valeur, parce qu'on estime important qu'on connaisse le passé et que justement, on puisse en parler ensemble autour de l'élément en question.
D'accord, donc vous, votre objectif, c'est vraiment de transmettre la passion des jeux vidéo, mais est-ce que vous avez d'autres défis ou d'autres idées par rapport à cette organisation que...
Oui, on a aussi, en tant qu'association, on est souvent sollicité pour parler de l'effet des jeux vidéo ou des écrans, etc. Donc on est très, très en réaction sur, sur l'actualité, quand par exemple on a des personnalités politiques qui vont fustiger le jeu vidéo, on trouve que c'est une cible un peu facile. Donc on rappelle quand même que le jeu vidéo fait vivre aussi des gens. Hein, notamment, il y a quand même des tas de métiers autour de ce domaine-là. Je rappelle encore une fois que c'est une industrie qui est aujourd'hui, en termes de balance commerciale, plus importante que celle du cinéma et celle de la musique. Et elle regroupe ces deux choses, entre autres, hein, puisqu'il y a, on peut aussi dire aujourd'hui qu'il y a une musique du jeu vidéo et il y a du cinéma du jeu vidéo. J'ai perdu le fil. Ça y est.
Défis qui sont rencontrés.
En fait, un des défis aussi qu'on relève, c'est de pouvoir parler aux parents et leur expliquer que le jeu vidéo, c'est très bien, mais dans une certaine mesure, et qu'il faut, il faut s'adapter. Il y a du jeu pour tous les âges, en fait. Et malheureusement, les parents s'y intéressent pas trop et considèrent trop souvent ça comme un jouet ou un passe-temps ou un tue-l'ennui. Et en fait, faut accompagner ses enfants. Et donc, on discute énormément avec des gens qui ont peur des écrans, qui ont peur du jeu, et d'autres qui pensent que c'est facile de laisser les enfants dessus. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut, je pense que le jeu vidéo est destiné à tous les âges et il a besoin de s'exprimer au travers d'un échange de générations. Et c'est ce qu'on essaie de proposer le plus possible.
Beau défi. D'accord, donc au niveau plutôt de la communauté et des membres de votre association, donc la composition de la communauté de l'organisation, donc est-ce que les jeux du rétro, donc de l'ancien temps, ça touche aussi les plus jeunes ?
Ça touche tout le monde, ça touche vraiment tout le monde, ça touche des plus anciens aux plus jeunes, et ce qui est très très sympa sur nos installations, c'est quand les parents font découvrir à leurs enfants, et que les enfants se mesurent à leurs parents, ou collaborent sur un jeu, et nous on adore ça.
D'accord. Et comment les membres ils interagissent les uns avec les autres et surtout avec le public ?
Alors nous, avec le public, on échange, on est sur nos installations, on ne fait pas que poser des consoles, on est là pour montrer un peu et discuter avec les gens de l'histoire de ces jeux. Et quand on installe une machine, par exemple, on essaye d'apporter quelque chose que les gens n'ont pas connu. Ils ont connu, par exemple, une PlayStation, on met une PlayStation, une ancienne, et puis on va mettre une manette qu'ils n'ont pas connue, ou on va mettre un jeu qui est adapté avec. Pour nous, c'est important que les gens repartent avec une information, en ayant appris quelque chose, et pas juste en ayant retrouvé ce qu'ils ont vu. Quant à nos membres, nous, on se réunit en permanence, tous les mois, et en fait, on échange de la connaissance sur des choses qu'on découvre encore. Même moi, aujourd'hui, je découvre encore des choses, alors que ça fait quand même quelques années que je suis dedans.
Vous devez donc avoir un grand impact culturel. Donc les jeux rétro sont-ils importants d'un point de vue culturel ?
Bien sûr, ils sont le patrimoine et l'histoire du jeu. En fait, aujourd'hui, les jeux que vous manipulez de nos jours sont issus de ce qui a été créé avant. C'est une avancée, c'est une recherche technologique, c'est du test, c'est de l'expérimentation. Et en fait, c'est important de se souvenir du passé en permanence et de rappeler d'où on vient pour savoir où on est et où on peut aller.
Justement, comment l'organisation contribue-t-elle à préserver cet aspect de l'histoire du jeu vidéo ?
Alors nous, on expose assez régulièrement un mini-musée. Hein, donc on rassemble des machines qui ne sont pas forcément fonctionnelles, mais qu'on présente. Et on a des choses qui expliquent régulièrement, des documents, des panneaux. Et on échange. Et on est également membre d'une association nationale qui s'appelle EMO5 et qui est la plus grande association de préservation en France d'électronique et de numérique.
Donc je vais vous poser quelques questions sur le futur des jeux rétro, notamment dans votre association. Donc quelles sont les perspectives pour les jeux rétro à l'avenir ?
Alors elles sont un peu sombres, les perspectives, parce qu'en fait, moi j'ai tendance à toujours vouloir apporter non pas seulement le jeu, la machine, etc., mais aussi l'expérience qui va avec. Et l'expérience qui va avec, en fait, c'est regrouper un ensemble de paramètres, notamment, par exemple, on ne fait pas tourner une vieille console sur une télé moderne. Et là, ça commence à devenir compliqué, puisque les télé modernes n'acceptent pas les mêmes signaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, on a beaucoup d'écrans cathodiques, et les écrans cathodiques, aujourd'hui, comme vous le savez, ils ne sont plus fabriqués. Donc il faut en trouver, il faut les préserver. Ça aussi, c'est un travail qui est de longue haleine et qui est compliqué pour nous. Il faut réussir à les restaurer, il faut la compétence pour le faire, notamment. Voilà, c'est une des difficultés majeures. Et pour ce qui est du futur du rétro, vous avez beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui à sauvegarder tout ça sous forme numérique avec des émulations matérielles, des émulations logicielles. Donc vous avez un petit émulateur sur votre ordinateur pour faire tourner un jeu. Voilà, qui n'est pas la cartouche, puis vous avez des émulateurs, enfin une émulation matérielle où là on peut effectivement réinsérer la cartouche. Ça, c'est un gros marché qui est en train d'exploser et qui surfe un peu sur la nostalgie qu'on connaît aujourd'hui.
D'accord, et en parlant toujours de l'avenir, donc comment votre organisation elle envisage de continuer à promouvoir et à célébrer les jeux vidéo rétro?
Eh bien, grâce à vous, parce qu'en fait, si on n'a pas de public, on ne peut pas le célébrer. Donc, venez sur nos événements, venez participer, venez éventuellement découvrir l'association avec nous, et puis apporter votre pierre à l'édifice. Dans mon asso, les gens viennent avec des sujets, ils font ce qu'ils ont envie de faire, on est très opportunistes, et en fait, ben, ça se passe le mieux du monde, parce que finalement, on échange sur les sujets qu'on aime.
D'accord, donc vous avez parlé des événements auxquels on pourrait venir. Donc c'est quoi les événements prochains que vous souhaitez organiser avec votre association, par exemple?
Alors on en a plein, hein. On va essayer de réorganiser le Beaujolais Gaming Fest, on essaye de voir si c'est possible fin juin. La difficulté, c'est de trouver une salle. Et puis après, on est présent notamment à la Fête mondiale du jeu. On sera le 25 mai à Toisset. On sera le 1er juin au Bordelan, comme tous les ans. Ils nous font confiance pour nous accueillir. Il est possible qu'on soit encore sur les Master of Fest qui vont se dérouler cette année. On va aussi de temps en temps à Lyon et on participe à des conventions spécialisées rétro gaming, ce qui nous fait connaître auprès du public et des gens qui ont envie de découvrir l'activité de l'association.
D'accord. Et comment est-ce qu'on peut finalement entrer en contact avec votre association?
Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on est moderne aussi, même si on est rétro. Alors on est rétro dans les réseaux sociaux, parce qu'on est surtout sur Facebook, hein, un truc de boomer, voilà. Et donc, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, mais on a aussi un site internet sur lequel on a l'ensemble des liens vers nos réseaux, press-start-retrogaming.com. Je vous laisserai aller consulter le site. Et puis sinon, on a une permanence tous les troisièmes vendredis du mois à notre local. Il faut nous contacter avant pour venir y participer.
D'accord. Et ben, merci beaucoup pour vos réponses et surtout autant que vous nous avez accordé. Donc l'émission Top Game continue, mais et tout de suite un petit interlude musical.
Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Anthony et avec mes camarades et moi-même, nous allons vous parler de l'économie des jeux vidéo en France. Pour ma part, je vous présenterai l'exportation des jeux et le lien international qu'ils représentent. Je vais laisser mes camarades se présenter.
Bonjour Anthony, bonjour mesdames et messieurs, je suis Félicien et je me présente à vous afin de vous informer sur les grandes entreprises du jeu vidéo de l'État français.
Bonjour chers auditeurs, moi c'est Sacha et je vous informerai en particulier sur les entreprises privées des jeux vidéo.
Parfait, alors on peut commencer, je te laisse débuter Sacha.
Avec plaisir. Tout d'abord, les entreprises privées et publiques jouent un rôle important dans l'économie du jeu vidéo. Les entreprises privées, telles que les studios de développement de jeux et les éditeurs de jeux, créent et distribuent des jeux vidéo pour les consommateurs. Ces entreprises peuvent être de tailles diverses, allant de petites entreprises aux grandes sociétés cotées en bourse. Certaines entreprises privées, bien connues dans l'industrie du jeu vidéo, incluent des géants comme Nintendo, Sony Interactive, Entertainment, Microsoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft et Take-Two Interactive. Ces entreprises sont impliquées dans le développement, la publication et la distribution du jeu vidéo populaire à travers le monde. Tandis que Delphine Software, Microïd, Infogram, Lancor, Loriciel ou encore Silmarils sont des entreprises publiques qui contribuent à la création d'un jeu vidéo.
Très intéressant.
Dans l'économie des jeux vidéo, il y a forcément des liens internationaux, car en France, l'industrie des jeux vidéo représente un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, ce qui paraît grand, mais comparé à celle du chiffre d'affaires mondial qui est de 187,7 milliards d'euros, celui-ci est petit. La France joue un rôle significatif dans l'industrie internationale des jeux vidéo, tant du point de vue de la création que de l'économie. Des entreprises françaises telles qu'Ubisoft ont une influence majeure contribuant à l'économie des jeux vidéo. Les exportations de jeux vidéo français sont souvent bien reçus à l'échelle internationale, renforçant la réputation de la France en tant que contributeur majeur à l'industrie du jeu vidéo. C'est pourquoi les jeux vidéo en France sont si bien vendus. La popularité croissante du secteur, la diversité des genres de jeux proposés, ainsi que la forte présence de l'industrie du jeu vidéo contribuent à leur succès sur le marché français.
C'était très intéressant. Et pour finir, Félicien va nous parler des grandes entreprises du jeu vidéo.
Pour terminer, avec un chiffre d'affaires estimé à 5 milliards d'euros, L'industrie française du jeu vidéo en crise au début des années 2000 est aujourd'hui l'une des plus dynamiques en Europe et dans le monde. Trois firmes du jeu vidéo en sont les principales actrices, Ubisoft, Gameloft et Ankama. Ubisoft, en première position, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,256 millions d'euros en 2014 et qui en 2021 a pu dépasser les 2 milliards d'euros. Ubisoft est détenteur de nombreuses franchises à succès, telles que Rayman, Les Lapins Crétins, Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Just Dance, Trackmania et Tom Clancy. Ces différents jeux ont permis la réussite de Ubisoft non seulement au niveau national, mais aussi international. Le salaire médian chez Ubisoft est de 48 750 euros par an. Ankama et Gameloft sont bien moins performants que Ubisoft, mais sont quand même présents. Ankama Games est une filiale du groupe Ankama. Elle est notamment connue pour ses jeux Dofus et Wakfu. Le chiffre d'affaires chez Ankama en 2021 est de 5,4 millions d'euros et le groupe propose un salaire moyen entre 2000 et 2700 euros. Le groupe Gameloft est une entité de Vivendi, un groupe spécialisé dans les médias et la communication. Il est connu pour ses jeux comme par exemple Discabolmi Minion Rush, Alpha 8 Airborne ou bien L'Âge de Glace Le Village. Il a réussi à enregistrer un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros en 2022. Le salaire annuel moyen chez Gameloft se situe entre 29 000 euros et 50 000 euros selon une estimation.
Merci Félicien pour ces informations très enrichissantes et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés.
Top Game, les jeux sous toutes leurs formes.
Une émission réalisée par les élèves du CSND en direct du lycée Notre-Dame sur Calade.
Bonjour Ouzied Adjali, merci de votre présence. Aujourd'hui, vous êtes ici pour nous présenter votre association Hégémonie eSport. Pouvez-vous brièvement vous présenter ?
Alors bonjour, moi c'est Ouzied Adjali, comme vous venez de le dire. Donc je suis CEO de deux structures en fait, donc de Hégémonie eSport qui s'occupe beaucoup du eSport mais en local, avec un club physique, avec des cours hebdomadaires, avec des coachs, des managers, etc., des participations à des LAN et à des compétitions mineures. Et ensuite à côté on a iSquare qui a une grosse team eSport professionnelle donc sur une boîte qu'on a entendue juste avant qui est sur Overwatch, donc c'est Activision Blizzard, qui a été racheté par Microsoft il y a peu, pour la petite info. Et du coup, là, ouais, on a une grosse équipe là-dessus qui est 16e mondial. Donc on est 3e FR, on est 15e EMEA. EMEA, ça rejoint, donc ça regroupe Europe, Nord-Afrique et Moyen-Orient. Et du coup, on est un petit peu en train d'avancer là-dessus et de gravir les échelons pour, pourquoi pas, être un jour top 1 mondial. Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Pour les grosses lignes.
Du coup, qu'est-ce que le e-sport ?
Alors, le e-sport, c'est avant tout du sport. On pourra avoir beaucoup de détracteurs, beaucoup de personnes qui diront l'inverse. Pour moi, le e-sport, ça reste du sport puisque bah, mes athlètes, comme je les appelle, font autant de sacrifices et donnent autant de temps par jour qu'un joueur d'échecs, par exemple, qui est devenu un sport en 2022. Donc, c'est avant tout un sport et une discipline pour moi.
D'accord. Pourquoi vous êtes-vous dirigé dans ce domaine et qu'est-ce qui vous a attiré ?
Alors, moi, c'est pas un exemple, mais il faut savoir que je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 5 ans donc, et que j'en ai 38. Donc, ça fait beaucoup d'années que je joue aux jeux vidéo. Et du coup, au fil des années, on s'est intéressé. On s'est jamais dit qu'un jour il y aurait une scène qui serait mise en avant au niveau du e-sport. On s'est jamais dit que le e-sport, que le jeu vidéo deviendrait une discipline. Et de fil en aiguille, avec mon meilleur ami, on a dit on va se lancer sur une structure. Moi qui en ai toujours fait, cette fois-ci on va professionnaliser la chose et on va dire utiliser le temps à bon escient.
Est-ce que vous faites des compétitions ?
Oui.
Et elles se passent où ?
Alors, on a fait une année la LES, la Lyon eSport, qui est sur Lyon du coup. À la fin du mois, là, le dernier week-end de mars, c'est la deuxième année qu'on le fait, on fait la Gamer Assembly à Poitiers, qui est l'une des plus vieilles LAN européennes. Je crois qu'elle fête, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle fête ses 27 ou ses 28 ans cette année. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont là. Et puis on participe au championnat de France et qui aura, dans la logique, on sera présent à la finale, à mes yeux, le week-end du 15 mai, si je dis pas de bêtises.
Est-ce que vous êtes classé ?
Oui.
Avez-vous déjà joué contre des grandes équipes ?
Oui, on a joué contre les champions du monde la semaine dernière.
Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour faire du e-sport ?
Le sacrifice et l'engagement. C'est un peu comme tout dans la vie, c'est une fois qu'on se lance dedans, il ne faut pas s'y lancer à la légère. On avait le collègue juste avant, Valentin, qui est sur le rétro, qui est vraiment sur la partie ludique et, on va dire, sociale du jeu vidéo. Mais il y a quand même des sportifs là-dessus. Et ceux qui se lancent dedans, que ce soit les coachs, les joueurs ou même les managers, parce qu'on a des gros managers, c'est vraiment le don de soi. C'est s'impliquer à fond. Comme pour un diplôme, comme pour un champion de foot qui veut devenir le meilleur, comme un champion de MMA qui veut devenir le meilleur. Ça va être exactement la même chose. C'est l'esprit de compétition et viser... on n'est pas parfait, mais on vise l'excellence. Voilà.
Et est-ce que vous encouragez les jeunes à en faire ?
Oui.
En général, vous jouez à quel jeu ?
Alors moi, je ne joue plus beaucoup, puisque je suis CEO, je gère beaucoup plus de choses que jouer, mais en général, je joue à des FPS compétitifs.
Et c'est quoi votre record le plus remarquable ?
Le plus remarquable, oui. Alors c'est il y a très longtemps, c'était sur Unreal Tournament quand j'étais jeune. Et j'ai fini la game avec 320 kills et 3 morts.
Et qui vous a inspiré ?
Personne.
Vous connaissez, quel est votre team e-sport préféré ?
Gentlemate, parce qu'ils viennent d'arriver.
Et vous connaissez la team Vitality ?
Vitality ?
Oui,
Vitality. Oui, je connais bien.
Où pratiquez-vous votre activité ?
Sur Villefranche, on a un club physique, donc HEC, qui est lié à Hégémonie, à côté de l'hôtel Best Western.
Et est-ce que vous y faites des lives ?
Oui, toutes les semaines maintenant, on fait un cast de match.
Vous faites sur quelle plateforme ?
Donc sur la chaîne A-Square, Team A-Square exactement.
Et vous avez combien de viewers en général ?
Alors on vient de commencer, ça fait un mois, et en un mois on a augmenté de 120 followers. On est à 120 followers à peu près.
Et vous faites partie de l'association Hégémonie eSport. Depuis quand elle existe ?
Alors ça fait 5 ans qu'elle existe, ça fait 3 ans que j'y suis et ça fait... Alors la deuxième année je suis passé directeur sportif là-bas et cette année je suis officiellement passé CEO, donc directeur général pour ceux qui veulent vulgariser la chose.
Et c'est quoi leur activité à l'association ?
Alors ça va être des cours semestriels, hebdomadaires, avec des accompagnements. On parle beaucoup aussi avec les parents parce que c'est souvent les parents qui nous demandent de leur expliquer, parce que les jeunes connaissent, mais les parents ne connaissent pas trop. Et puis, c'est ça, c'est en fait les accompagner comme dans un club de basket, de gym ou quoi, et toute l'année, ils pratiquent. Je sais, c'est un peu difficile à comprendre quand on n'est pas dedans, mais ils vont pratiquer ça avec autant de rigueur que comme le gars qui va aller à la pétanque tous les dimanches, par exemple.
D'accord. Et vous avez des projets futurs avec Hégémonie ?
Oui, donc avec les résultats de ma première structure, avec la première équipe, cette année, on va lancer officiellement une équipe, donc Pass2Pro, ce qu'on appelle Pass2Pro, avec un recrutement et des trails qui seront faits régionaux, donc dans le 69, avec que des joueurs du 69, parce qu'on aimerait pouvoir... parce que j'ai des joueurs européens, là. Et on aimerait bien avoir des joueurs qui puissent venir, une grosse équipe qui puisse venir toute la semaine ou tous les week-ends, venir un peu, avec un peu plus de récurrence au club. Avoir une équipe locale, que les Gones puissent avoir une équipe sur les scènes.
Et on peut vous contacter comment ?
Par Instagram, Twitter, et puis le Twitch.
Super, merci beaucoup.
De rien.
Alors nous vous avons prévu un petit vrai ou faux pour parler un peu plus du monde de l'e-sport.
Oui.
Est-ce que vous voulez bien vous y prêter ?
Bien sûr.
Super.
Les compétitions d'e-sport attirent peu de spectateurs.
Faux.
Les joueurs professionnels d'e-sport ne sont pas rémunérés pour leur travail.
Faux. J'aimerais bien que ce soit plus, mais il y en a quand même qui sont rémunérés aujourd'hui. Mais okay. Très peu.
Merci. Les compétitions d'e-sport sont diffusées sur Internet, mais pas à la télé.
Vrai, malheureusement.
Les équipes ont des entraîneurs et des analystes pour les aider à performer.
Vrai.
Les compétitions d'e-sport se déroulent principalement en ligne et rarement en personne.
On va dire c'est du 70-30.
Les prix pour les gagnants des compétitions peuvent atteindre des millions d'euros.
Oui.
Les jeux mobiles ne sont jamais joués en compétition e-sport.
C'est faux, il y en a eu.
Les jeux de stratégie en temps réel sont populaires dans le monde de l'e-sport.
Oui.
Les équipes d'e-sport sont souvent soutenues par des sponsors et des marques.
Souvent, c'est un grand mot. Mais oui, il y a quand même des équipes e-sport qui ont des sponsors. Mais pas souvent. J'enlèverai le mot souvent.
C'est un tout juste.
Ok, merci.
Bon, merci pour toutes ces réponses. Merci d'avoir participé à ce petit questionnaire.
Mais de rien. Merci à vous de m'avoir invité, surtout.
Tout de suite, on écoute The Weeknd et Remember avec le titre Start Boy.
Recommend play my song on the radio. You too busy trying to find that blue I saw. I let my black hair grow and my weed smoke. And I sweat too much on the regular. We gon' let them hits fly, we gon' let it go. If it ain't next door, then it gotta go. I just won a new award for a kid show. Talking about a face, coming off a bag of blow. I'm like, goddamn bitch, I am not a teen choice. Goddamn bitch, I am not a bleach boy. Whip thing, make a nigga understand though. Got that Hannibal, silence of the Lambo. Hit the gas so hard, make it rotate. All my niggas blew up like a propane. All these R&B niggas be so lame. Got a sweet Asian chick, she gon' love. Up, I'm mixing up the potion. All I wanna do is make that money and make dope shit. It just seem like niggas tryna sound like all my ocean. Everybody knows it, all these niggas know me. Platinum off a mixtape, sipping on that codeine. Poet in my trophies, rolling to my nosebleed. I'ma keep on singing while I'm burning up that OG. All my niggas get it, they make money all alone. Rock a chain around their neck, making sure I'm good at home. When I travel around the globe, make a couple mil a show. And I come back to my city, I fuck every girl I know. Used to walk around with a slouch, had a mattress on the floor. Now my shit straight, eating all day, trying to lose weight. That good sex will sweat it out. Hotel bed springs will wear it out.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Top Game et vous venez d'écouter Remember de The Weeknd.
Et tout de suite, une chronique parlant de l'addiction des jeux vidéo présentée par Lou et moi-même, Myrtille. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du jeune Timéo. Personnage fictif, il reflète la vie de milliers de jeunes addicts aux jeux vidéo dans le monde. Timéo avait toujours été un garçon curieux et avide de découvertes. C'est alors qu'à Noël, il reçut une PS5. Dans son premier jeu vidéo, il se sentit transporté dans un monde de possibilités infinies. Au début, ce n'était qu'un passe-temps innocent, un moyen de se détendre après une longue journée d'école. Mais bientôt, les jeux vidéo commencèrent à prendre de plus en plus de place dans sa vie. Timéo passait des heures devant son écran, perdant la notion du temps et de l'espace. Que ça soit la nuit ou le jour, chaque jeu était une nouvelle obsession. Il était captivé par les défis qu'ils offraient, l'adrénaline qui montait à chaque victoire et la frustration qui accompagnait chaque défaite. Il se perdait dans ces mondes virtuels, oubliant les responsabilités qui l'attendaient à l'extérieur. À mesure que son addiction grandissait, Timéo se renfermait de plus en plus sur lui-même. Il négligeait ses amis, sa famille et même ses propres besoins fondamentaux. Pour lui, le monde réel devenait de plus en plus fade en comparaison de l'excitation des jeux vidéo. S'éloignant de ses amis et de ses proches, il compensait et se perdait dans un nouveau monde. Mais cette obsession avait un coût, et pas seulement sur le plan émotionnel. Les jeux vidéo étaient chers et Timéo dépensait chaque centime qu'il possédait pour combler sa passion. Arrivé au bout de ses économies, il commençait même à emprunter de l'argent à ses proches pour acheter les derniers titres à la mode.
Malgré les avertissements de ses proches, les punitions, Timéo devenait agressif à travers son langage et les conséquences le faisaient se retrouver seul. Incapable de résister à l'appel des jeux vidéo, pour lui, c'était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était une addiction, un refuge, sûr, dans un monde de plus en plus inconnu. Le temps passa et au bout d'un an, Timéo accepta d'être aidé. Après plusieurs années de travail sur son addiction et son renfermement, il ne passe aujourd'hui plus que 2 heures par semaine sur les consoles. Il a réussi à se retrouver une vie normale, des amis, des liens qu'il avait perdus également avec sa famille. Beaucoup de jeunes perdent leur temps, perdent des relations, de l'amour, des découvertes et même le goût de la vie. D'après le site du ministère du Travail, 99% des jeunes de moins de 17 ans déclarent avoir joué aux jeux vidéo, 42% y joueraient tous les jours et d'après Science Avenir, c'est 5% des adolescents qui seraient touchés par l'addiction des écrans ainsi que des jeux vidéo. Ici, Timéo a perdu une année de sa vie, ce qui revient à 365 jours, 12 mois, 52 semaines, 8760 heures, 562 600 minutes.
Ça fait beaucoup là, non ?
Effectivement, c'est extrême, mais rappelons que ce n'est qu'une petite partie de la population qui est concernée. Et même s'il faut y faire attention, rien n'empêche de prendre plaisir à jouer et de mettre la pâtée aux parents. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée !
L'émission Top Game continue et s'éloigne peu à peu de jeux vidéo, pour nous intéresser maintenant aux jeux de société.
Nous nous sommes rendus au magasin de jeux de société Ludique à Villefranche pour y interviewer le gérant Monsieur Corbin.
Top Game, une émission réalisée par les élèves du CSND.
En direct du lycée Notre-Dame sur Calade.
Bonjour Monsieur Corbin, vous êtes gérant du magasin du jeu de société Ludique à Villefranche-sur-Saône. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre métier ?
Bonjour, donc effectivement je suis gérant de la boutique Ludique. On est un magasin de jeux de société, notre activité principale c'est du coup de vendre des jeux de société. Ça passe par le conseil, les gens viennent chez nous souvent parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi acheter ou ils ne connaissent pas forcément et du coup nous on les guide à travers tous les jeux de société parce qu'il en existe beaucoup. Et donc on a un rôle de conseiller d'abord et ensuite comme on a un commerce, on va derrière les commercialiser, les vendre. On a toute une partie aussi sur la connaissance des jeux, on réceptionne les jeux, enfin, il y a tout un pan du métier aussi qui va être dans la gestion logistique. Mais le principal corps de métier, enfin, le principal domaine, c'est le conseil et la vente.
Est-ce que vous avez eu d'autres métiers avant celui-ci, et si oui, lesquels ?
Alors oui, moi j'ai un parcours très atypique. J'ai commencé mes études dans l'environnement, l'agro-environnement exactement. J'ai fait aussi de l'apiculture, donc rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Et ensuite j'ai bifurqué, j'ai fait aussi de la fromagerie. Donc là j'ai pu faire du commerce du coup. Et je suis arrivé dans les jeux de société il y a maintenant, ça va bientôt faire 3 ans.
Et comment vous êtes retrouvé à faire ce métier du coup ?
Alors c'est à la base par passion. Je pense que pour travailler dans une boutique de jeux de société, il faut quand même être passionné par les jeux de société. Et du coup, j'avais pris contact avec une personne qui avait une boutique de jeux de société à Lyon. C'est d'ailleurs la personne qui est également propriétaire de cette boutique-là. Moi, je suis gérant, mais je suis pas le propriétaire. Et en discutant, on a sympathisé. Elle me dit qu'elle avait un poste, enfin qu'elle cherchait quelqu'un pour gérer une boutique qu'elle venait de racheter à Villefranche-sur-Saône. Et du coup, ben c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le poste ici.
Est-ce que vous faites du click and collect ?
Oui, on a un site internet depuis l'année dernière qui permet effectivement de faire du click and collect. On fait pas de vente, enfin on fait de la vente en ligne, mais les gens ne peuvent pas les recevoir chez eux. Ils valident la vente sur le site et ensuite ils peuvent venir le chercher en boutique.
Pouvez-vous du coup me parler de l'histoire et de la vision de votre magasin de jeux de société ?
Alors l'histoire, c'était donc une boutique qui avait été créée il y a 17 ans, dans une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de boutiques de jeux, ça se développait pas mal. Aujourd'hui ça s'est vraiment beaucoup développé, le Covid a notamment fait qu'il y a eu plein de gens qui se sont intéressés aux jeux de société. Elle a pris un petit peu d'ampleur, il y a un festival qui s'est monté aussi à Villefranche qui a fait aussi connaître le jeu de société à Villefranche et notamment la boutique. Et aujourd'hui, donc nous ça fait 3 ans qu'on a récupéré la boutique, donc ça se porte bien, on essaie de la développer encore. L'idée c'est d'essayer d'élargir un petit peu. On a surtout des joueurs, on va dire des plus gros joueurs. On essaie un petit peu d'élargir aussi au public un peu plus familial. On va aussi axer un petit peu plus sur tout ce qui va être jeu de cartes, etc. Tout ce qui va être pour la Magic, Pokémon, c'est quelque chose qui fonctionne bien ici. Et globalement, on essaie un petit peu de s'adapter aussi à la demande et de diversifier un peu l'activité.
Est-ce que c'est rentable du coup comme activité ?
Alors oui, sinon on serait plus là. Heureusement que c'est un petit peu rentable. Alors c'est sûr que c'est pas le genre de métier où c'est pas extrêmement lucratif comme activité. C'est pas un domaine où les marges sont énormes ou quoi que ce soit. Mais effectivement, ça reste rentable parce qu'il faut quand même bien qu'on puisse nous en vivre derrière. Donc il faut quand même que ça soit un minimum rentable. Ouais.
Quels sont les jours et les horaires d'ouverture ?
Alors nous, comme beaucoup de commerces, on est ouvert du mardi au samedi. On travaille toujours les samedis qui sont pour nous une des plus grosses journées. Hein. C'est là où les gens sont disponibles, donc il vaut mieux qu'on soit ouvert à ce moment-là. Par contre, on est du coup fermé les dimanches et lundis. On se garde quand même 2 jours de repos. Donc voilà, c'est le mardi de 10h à midi. On a une pause ensuite de 2h entre midi et 14h et on reprend de 14h à 19h le soir.
Est-ce que vous avez des stratégies ou des initiatives que vous utilisez pour fidéliser vos clients ?
Oui. On a effectivement un système de fidélité qui est assez classique, on va dire, parce que je pense que c'est utilisé dans pas mal de boutiques. Les gens cumulent des points, donc c'est un système qui n'engage à rien, si ce n'est donner son nom à chaque fois que la personne vient, et ça cumule des points. C'est-à-dire que la personne achète un jeu, 1 euro sur le jeu lui fait 1 point, donc 20 euros, un jeu à 20 euros lui fait 20 points, et au bout de 200 points, on fait 10 euros de remise. Ça équivaut en fait à une remise, comme s'il avait une remise permanente de 5%. Voilà.
Quel type de jeu de société proposez-vous dans votre magasin ?
Comme on s'adapte un petit peu au public qu'on a et que le public est assez large, on propose vraiment de tout. Les premiers jeux de société pour les petits, c'est environ à 2 ans. Avant ça, on est plutôt sur du jouet, des petits trucs d'adresse, etc. Donc ça va 2 ans. La majorité de nos jeux sont des jeux pour du public familial entre 8 et 99 ans. Et après, on a les gros jeux experts qui sont plus, un peu moins populaires évidemment et qui sont destinés à des gros joueurs.
Quelles sont les tendances et si vous en avez du coup actuelles dans le domaine des jeux de société ?
Bonne question. On a une tendance plutôt à avoir des petits jeux qui sont pas chers, parce qu'on est dans un contexte où les gens ont un petit peu moins d'argent vu que tout a monté, tout le prix de la vie a monté. Donc on voit, nous, ce qu'on vend, c'est plutôt des jeux avec des prix en dessous de 20 euros, 30 euros maximum. Des petits jeux qui soient faciles à sortir, parce que les gens aiment bien du coup acheter des jeux pour pouvoir y jouer avec le plus grand monde. Donc typiquement, celui qui a gagné le prix cette année, il y a un festival des jeux tous les ans à Cannes, celui qui a gagné cette année s'appelle Trio, et moi c'est un jeu que j'ai beaucoup vendu depuis qu'il est sorti parce que je l'aime bien et qu'il correspond justement à ce genre là c'est un jeu à 13 euros qui est très facile à jouer, on peut jouer avec des copains n'importe quand, et c'est ce genre de jeu là qui fonctionne. Il y a des jeux après, des non connus, comme les Aventuriers du Rail par exemple. C'est des jeux maintenant qui sont assez connus parce qu'ils sont sortis il y a plus d'une dizaine d'années et qui fonctionnent bien. Il va y avoir des jeux comme Codename. On a des jeux comme le Sky Joe. C'est des jeux qui maintenant sont quasiment aussi installés qu'un Uno ou un Monopoly.
Comment faites-vous la publicité de votre magasin et êtes-vous sur les réseaux sociaux ?
Alors ça, c'est la partie où on n'est pas bon. C'est la partie communication. J'ai un peu essayé de remettre, de republier de temps en temps sur Facebook. Alors maintenant, Facebook, ça paraît un peu vieux. On va essayer de se diversifier justement pour aller plutôt sur les réseaux comme Instagram, être un peu plus actif là-dessus. Mais on est en train là, je suis en train de contacter des graphistes justement pour essayer de refaire un peu tout le visuel de la boutique pour pouvoir lancer ça quand on aura quelque chose de propre au niveau de la communication. Mais du coup, pour l'instant, c'est vraiment un point sur lequel on pêche. On n'est vraiment pas très bon en communication.
Qu'est-ce qui distingue votre magasin des autres magasins ?
Eh ben, on est le meilleur magasin de Villefranche. Il y a pas de. non. Nous, on est une boutique de proximité, donc les gens viennent souvent chez nous pour avoir du conseil, ce qu'on n'a pas forcément quand on va dans les grandes enseignes comme King Joe ou quoi. Alors, il peut y avoir des gens très compétents dans ces enseignes-là, mais ils peuvent pas tout connaître. Nous, on est vraiment spécialisés sur le jeu. Donc moi, j'essaye de connaître la plupart, même si c'est impossible parce qu'il y en a trop. Mais j'essaye quand même de connaître la plupart des jeux que je vends. Et du coup, bah les gens sont aussi apprécient ça. Il y a déjà le contact humain où on est dans une boutique entre passionnés. Vite fait discuter une heure parce qu'on apprécie parler de jeu, mais aussi parce que les gens savent qu'il y aura du conseil et souvent on essaye de faire en sorte que le conseil soit pertinent. Quoi.
Comment fixez-vous vos prix ?
On a une marge en fait, c'est quelque chose d'assez classique. Dans les boutiques de jeux en général, tout le monde est à peu près aligné sur les mêmes prix, donc on a une marge classique et on applique cette marge-là pour la plupart de nos jeux. On essaie toujours de faire attention quand même par rapport justement à la concurrence internet, à pas non plus être. Si on voit qu'on est vraiment au-dessus, ben on va rogner un peu sur la marge, voilà, quitte à gagner moins d'argent, mais voilà, pour que ça soit aussi intéressant pour les clients. Quoi. Voilà.
Et est-ce que vous avez des fournisseurs ? Si oui, comment vous les choisissez ?
Alors ouais, on travaille avec pas mal de fournisseurs. Alors dans le jeu de société, en gros, il y a les maisons d'édition qui vont fabriquer les jeux. Et souvent, ces maisons d'édition-là vont passer par des grossistes qui vont regrouper plusieurs maisons d'édition. Et nous, on va commander chez ces grossistes-là. On en a, on en a beaucoup, on en a peut-être une vingtaine, mais on en a 6, 7, 8 avec lesquels on travaille beaucoup.
Et vous avez des employés ?
Alors non, moi je suis le seul. Alors moi je suis déjà salarié, mais je suis le seul salarié sur la boutique. Après, comme je dis, on travaille avec une autre boutique à Lyon. On a aussi un salarié qui va faire un mi-temps sur les deux boutiques.
Et quel a été votre salaire la première année ? Est-ce que avec le temps votre salaire a été stabilisé ou elle a augmenté ?
On commence. Alors comme je vous dis, c'est pas un métier où on gagne énormément, mais moi je suis à peu près autour de 1500-1600 euros net. Et effectivement, on essaie de faire en sorte que ça évolue chaque année aussi par rapport au fait que la boutique va croissant. On essaye d'arriver quand même à faire qu'il y ait une augmentation tous les ans, mais de toute façon, voilà, c'est pas un métier où on va gagner 4000 euros par mois, ça c'est sûr.
Et du coup, votre salaire, est-ce qu'il change en fonction de vos ventes ?
Non, alors moi, étant salarié, du coup, j'ai un salaire fixe. Maintenant, c'est sûr que si demain je fais un mois à 100 000 euros, oui, peut-être que là je pourrais prétendre avoir une prime, mais sinon, non, c'est pas. On n'est pas payé à la commission. Quoi.
Bah, merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir. Merci à vous.
Top Game, les jeux sous toutes leurs formes.
Et merci à Monsieur Corbin d'avoir répondu à nos questions. C'était une interview réalisée par Roman, Linda et Camille, moi-même. On écoute maintenant One Dance de Drake.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
dip it down, I'll take it slow, make you lose control.
Accompagnés d'Agathe, nous sommes allés interviewer les gérants du Lorana, un bar à jeux qui se situe rue Roland à Villefranche-sur-Saône. Nous poussons la porte et faisons la connaissance de Cédric. Le bar à jeux a un côté cocooning qui nous a tout de suite plu. Nous passons à l'interview.
Top Game, les jeux sous toutes leurs formes.
Bonjour, voici Agathe
et Muriel
et Cédric.
Nous allons vous présenter une interview sur le Lorana, le bar à jeux. Donc tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre société ?
Alors le Lorana, c'est un bar à jeux où on peut venir consommer des bières, des jus de fruits, des thés, des chocolats chauds et consommer aussi des crêpes, des gaufres, des paninis, enfin du snacking maison et jouer à des jeux de société, parce qu'on a une ludothèque avec 500 jeux de société.
Pouvez-vous nous dire depuis quand vous pratiquez cette activité ?
Alors, le Lorana a été créé en 2018, donc ça va faire, on rentre dans notre cinquième ou sixième année sur le bar. Et moi, je suis arrivé, donc on est trois associés, je suis arrivé il y a 3 ans dans la société.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle au sein de la société, du coup ?
Alors, pour ma part, moi, je suis tout ce qui est développement des réseaux sociaux et de tout ce qui est activité extérieure au bar, parce qu'on fait aussi de l'événementiel. On va dans d'autres entreprises, on va dans d'autres bars faire des animations autour du jeu. Et donc, je développe tout ça. Voilà.
Pouvez-vous nous donner un adjectif ou un nom qui pourrait décrire votre activité au sein de cette entreprise ?
Le fun. Le fun avant tout. Voilà.
Dans ce métier, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin et aller travailler ?
Alors déjà, la toute première chose qui me donne envie de me lever le matin, c'est qu'en fait, je suis mon propre patron. Donc du coup, si je me lève pas, j'ai pas d'argent. C'est sûr à 100%. Voilà. Et la seconde chose, c'est que dans mon métier, je fais pas ce que je veux, mais ce que j'ai choisi. Donc du coup, j'aime ce que je fais. Donc automatiquement, on n'a pas l'impression de vraiment d'aller au travail. On va vraiment faire quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on a envie de développer. Et du coup, c'est ça la motivation aussi, le fait de réussir à faire quelque chose et surtout de voir les gens quand ils sont contents et qu'ils rigolent, quand ils viennent au bar et qu'ils ressortent avec le sourire et que ça s'est bien passé. J'ai plein de petites choses comme ça, plein de petites, entre guillemets, victoires chaque jour. Et puis, j'ai jamais la même journée, on n'a jamais les mêmes clients. Voilà, c'est très varié. Donc, tout ça, ça me donne envie de me lever le matin, oui.
D'après ce que vous nous dites, vous êtes passionné par votre métier. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans une activité comme la vôtre et qui n'osent pas forcément faire le pas ?
Alors avant tout, de se poser la question si on a envie de ne plus être salarié. Donc déjà, de dire on est seul et il va falloir s'entourer de personnes qui connaissent le monde de l'entreprise. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir par exemple la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, qui eux aident vraiment à développer sa société quand on n'est pas de ce monde-là, parce que c'est vraiment deux mondes à part. Et surtout, il faut avoir une envie de faire un métier qui nous plaît. Il ne faut pas se mettre dans un métier parce qu'on pense qu'il va nous rapporter de l'argent. Si on le fait que pour l'argent, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment aller dans un métier où on a envie de se dire « Ok, là-dedans, je suis bon dans ce métier. Je pense que je peux le faire tout seul. » Et du coup, il faut foncer parce que si le métier vous plaît, vous allez le faire sentir aux autres gens et automatiquement, vous allez réussir dans votre métier et ça vous rapportera de l'argent. Mais il ne faut pas penser l'inverse. Si je donne un conseil, c'est ça. Faites vraiment le métier qui vous plaît, si vous voulez être indépendant, mais ne faites-le pas pour l'argent. La première valeur, c'est que vous êtes bon dans ce métier et que vous voulez le développer.
Pour en revenir à votre bar à jeux, quels sont les jeux que vous proposez ?
Alors nous, on est très variés au niveau des jeux, parce que ça peut aller du jeu comme pour enfants de 2-3 ans, après famille, donc ça va de 8 ans jusqu'à 12-13 ans. Et après, on a plus pour adultes avec les jeux gros jeux de stratégie, genre de choses. Et puis on a des jeux d'ambiance aussi, Blanc manger le coco, genre de choses, où vraiment c'est des jeux où il y a des règles très très simples, mais on rigole parce que c'est vraiment sur l'humour que c'est basé. Donc vraiment, on a vraiment toute catégorie de jeux. Ça va même, on a le Monopoly, Cluedo, comme des jeux qui sont pas très connus, d'adaptation de films comme Dune, ou qu'est-ce que j'ai d'autre aussi Après, on a pas mal de jeux aussi pour juste deux joueurs, parce que des fois, les gens, ils viennent juste à deux et on a pas mal de choses à leur proposer aussi. Donc vraiment, on a, ouais, on a pas mal de jeux différents à proposer. Donc c'est vraiment du plus petit au plus grand, voilà, pour tout âge et tout niveau.
Dans votre bar à jeux, y a-t-il des tendances ou des jeux qui se font plus que d'autres?
Alors oui, on va dire que la 50%, voire plus peut-être des jeux qui sont joués, ça va être du jeu à famille et ambiance. Parce que c'est des jeux où on se prend pas la tête, où on va apprendre les règles assez vite. Et donc, du coup, tout de suite, le fun va arriver. Donc, on va jouer, ça va nous plaire de jouer à ce jeu parce qu'on va pas se prendre la tête sur les règles. Et après, les jeux d'ambiance, parce qu'entre amis, tout ça, quand on boit un coup, c'est vrai que c'est facile à jouer. Donc, vraiment, nos plus grosses parties, c'est sur ce genre de jeu.
Selon vous, quel est l'intérêt des jeux de société pour les enfants et les personnes âgées?
Alors pour les enfants, ça va leur apprendre la concentration et la réflexion. Vraiment, parce qu'à chaque jeu de société demande quand même un minimum de concentration, parce qu'il faut suivre ce qui se passe sur la table, il faut suivre les autres joueurs pour pouvoir s'adapter. Bah, nous, à un moment, quand c'est à notre tour de jouer, faire ce qu'il y a à faire pour justement être meilleur que les autres. Voilà, ça apprend aussi à perdre pour les enfants, et ça c'est très important. La frustration, ce genre de choses, contrôler la frustration. Voilà, vraiment pour les enfants, ça va être ça. Et surtout, souvent, quand les enfants jouent, il y a souvent des adultes autour de la table. Et donc, ça permet aussi d'échanger entre adultes et enfants. Ça, c'est tip top. Après, pour les personnes dites âgées, je sais pas ce que vous voulez dire par âgées, mais à partir d'un certain âge, ce qui est bien, le jeu de société, ça permet de faire fonctionner sa mémoire. Donc, du coup, ça la permet de la travailler. Et aussi pour les personnes âgées, des fois, en fait, ça va permettre qu'elles se retrouvent, parce que souvent, quand on est personne âgée, des fois, on est un peu isolé. Et devenir dans un bar à jeux, ça peut permettre de revoir de la jeunesse ou revoir d'autres personnes du même âge et de jouer avec elles. Et ça permet de retisser des liens. Voilà. Donc aussi pour les personnes âgées, ça permet de garder le lien social.
Du coup, dans votre bar à jeux, on a compris qu'il y a beaucoup de jeux manuels, de jeux de société, etc. Est-ce que vous proposez aussi à vos clients des jeux électronique, enfin des jeux.
Donc ouais, on te propose d'autres choses en termes de jeux. On a aussi ce qui s'appelle les jeux style escape game. Donc ça veut dire que vous avez une aventure qui se passe dans le jeu et en fait vous avez des cartes et il faut trouver des objets, il faut trouver des associations de cartes pour découvrir des énigmes et avancer. Après en jeu dit électronique, on a du rétro gaming un peu. Voilà, on peut jouer dans une petite console de jeu qu'on a dans le bar, avec des anciens jeux et tout ça. Et sinon, après, ce qu'on fait d'autre, on peut faire aussi, on fait des soirées. Donc, on fait tout ce qui est karaoké, blind test, voilà, avec de l'interaction, quoi. Des jeux avec des quiz. Ou aussi, on fait des jeux comme le Burger Quiz ou qu'est-ce qu'on fait d'autre comme jeu le TTMC, ça, c'est un jeu de culture G, qu'on fait aussi sur écran géant. Donc, on fait les équipes et nous, on a le plateau sur un écran géant et du coup, il y a beaucoup plus d'interactions.
Et pour finir, est-ce que vous avez des projets pour la suite, les années à venir?
Alors nous, notre plus gros projet dans les années à venir, ça serait de faire un gîte autour des jeux de société. Donc c'est d'avoir toujours un endroit où on aurait le bar à jeux et tout ça. Mais en plus de ça, on pourrait rester dormir et prendre des jeux, aller dans notre chambre et d'être dans un endroit où justement on serait en pleine nature et il y aurait d'autres activités à faire la journée. Et quand on rentre le soir, bah, du coup, on peut jouer aux jeux de société. Tout ça, se retrouver soit entre amis, soit pour les entreprises. Voilà, parce que elles veulent passer un moment détente avec leurs collaborateurs et du coup ça serait un gîte où il y aurait une salle de réunion, voilà. On serait sur quelque chose de très très ludique, ça serait vraiment un projet. Là on parle vraiment d'années, c'est pas pour demain si on fait ça. Après dans le court terme, nous on aimerait vraiment développer tout ce qui est animation de soirée, voilà. Là dans les mois à venir, c'est vraiment ça qu'on veut faire, plus de karaoké, plus de blind test, plus ouais, vraiment des moments très festifs. On veut développer le côté festif du barrage, ouais. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Et bah, merci à vous, les filles, et puis bah, peut-être à bientôt.
Top Game, une émission réalisée par les élèves du CSND
en direct du lycée Notre-Dame sur Calade.
Nous vous conseillons le Lorana car c'est un lieu accueillant et chaleureux. Les gérants sont très sympas et mettent à l'aise leur clientèle. C'est un lieu accessible à tout âge avec des horaires d'ouverture très larges. Merci encore à eux de nous avoir reçus. Et c'est la fin de notre émission Top Game. Merci de l'avoir suivie. Elle sera à retrouver en réécoute sur radio-calade.fr.
Bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et nous remercions la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Pass Culture, ainsi que le lycée Notre-Dame et Calade.
Top Game, les jeux sous toutes leurs formes.
Une émission réalisée par les élèves du CSND en direct du lycée Notre-Dame sur Calade.